Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 9 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 28 février 2023. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le président français Emmanuel Macron présente une nouvelle stratégie pour l'Afrique.
Le Parlement iranien met en garde contre une réponse écrasante aux mesures anti-iraniennes de l'Europe. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien a ordonné la démolition de 14 maisons des Palestiniens dans la ville occupée de Qods. Et en France, des perturbations sont attendues mardi dans les transports. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le vice-président du Parlement iranien a mis en garde contre une réponse ferme aux pays européens s'ils s'insistent à poursuivre des politiques hostiles et agressives contre Téhéran et ne parviennent pas à rectifier leur approche vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Au cours des derniers mois, les ennemis de la nation iranienne ont eu recours à une guerre hybride pour déformer les réalités de la République islamique. Maintenant qu'ils ont lamentablement échoué à atteindre leur objectif, ils tentent de faire pression sur l'Iran au niveau international à travers divers scénarios politiques, a déclaré dimanche 29 janvier Ali Nikzat. Il a ajouté que l'Europe devrait savoir que le fait de se conformer complètement aux exigences des États-Unis dépouillera davantage l'Union européenne de sa dignité et de sa crédibilité auprès de l'opinion publique mondiale. Nous conseillons aux Européens de revenir à la raison et de ne pas sacrifier leurs intérêts au profit des désirs américains. Quant à la tentative de l'Europe d'ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, à sa liste terroriste, Nikzat a souligné que le CGRI est une force militaire officielle et que l'Iran répondra certainement à toute tentative désespérée et imprudente à cet égard. Les hommes et les femmes d'État européens devraient se souvenir de l'époque où ils étaient hantés par la peur des terroristes Daesh, puis être reconnaissants pour les sacrifices consentis par les forces héroïques du CGRI, a déclaré Nikzat. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que son homologue qatari lui avait transmis des messages des parties à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, dont le sort est dans l'incertitude depuis que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement en 2018. S'exprimant dimanche 29 janvier, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al-Thani, le chef de la diplomatie iranienne a salué les efforts de Doha lors des négociations multilatérales pour relancer l'accord nucléaire. Aujourd'hui, nous avons reçu des messages des parties du plan global d'action conjoint par l'intermédiaire du ministre qatari des Affaires étrangères, a-t-il déclaré sans donner plus de détails. Il a ajouté que l'Iran se félicitait des efforts du Qatar pour transmettre des messages ou des initiatives visant à aider les parties du plan global d'action conjoint à résoudre les problèmes restants et à faire lever les sanctions américaines. En réponse à une question sur les pressions économiques américaines contre l'Iran, Amir Abdullahian a déclaré « Malheureusement, le terrorisme économique contre les pays indépendants est à l'ordre du jour des États-Unis. L'Iran a utilisé diverses méthodes pour neutraliser les sanctions et continuera à le faire. Nous continuerons à travailler avec nos amis régionaux pour contrer ces mesures improductives qui sont en fait une violation systématique des droits de l'homme », ajoutait le chef de la diplomatie iranienne. Pour sa part, le ministre qatari des Affaires étrangères a confirmé avoir transmis à son homologue iranien des messages de différents partis au plan global d'action conjoint sur diverses questions. Le Qatar estime que le moment est venu de régler les questions relatives à la relance du PEGAC et de préparer le terrain pour que les parties parviennent à un accord final, a déclaré Al-Sani. Il a annoncé avoir transmis des messages des États-Unis à l'Iran, ajoutant que son pays poursuivrait ses efforts pour dissiper les malentendus entre les parties de l'accord nucléaire et leur retour à leurs engagements. Le Qatar cherche à promouvoir la stabilité régionale et la relance du PEGAC qui joue un rôle important à cet égard, a déclaré le ministre qatari. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré que l'Iran avait toujours accueilli favorablement le dialogue entre les pays de la région, soulignant que les négociations étaient essentielles pour promouvoir une coopération durable dans la région. Nous pensons que le dialogue et la coopération peuvent être des moyens exclusifs et efficaces pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité collective régionale, a-t-il déclaré. Il a noté que Téhéran et Doha ont une position commune sur la nécessité d'accélérer l'expansion des relations et de supprimer tout obstacle éventuel à cet égard. Dans la continuité de ses actions provocatrices, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du cabinet israélien, a ordonné la démolition de 14 maisons des Palestiniens dans la ville occupée de Rotz. La maison de Mohamed Rat Matar, un citoyen palestinien à Rotz, a été démolie sous prétexte d'être construite sans autorisation dans la localité de Jabel Moukaber, située au sud-est des territoires occupés. Auparavant, les médias du régime sioniste avaient annoncé qu'Itamar Ben-Gvir avait décidé de détruire le village palestinien d'Al-Khan al-Ahmar à Rotz-Est. Cette décision de Ben-Gvir s'inscrit dans la nouvelle série d'actions et d'agressions des sionistes avec la mise en place du cabinet d'extrême droite du premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahou. Ces derniers jours, les territoires palestiniens occupés ont assisté à l'escalade de la tension suite aux agressions quotidiennes des sionistes et à la riposte de la résistance palestinienne. L'opération martyre du combattant palestinien Khaili Al-Aqb dans la ville occupée de Rotz a été menée vendredi soir, tandis que la Cisjordanie a été témoin jeudi de l'attaque de l'armée du régime sioniste contre la ville de Jenin. Un nouveau crime israélien au cours duquel 11 citoyens palestiniens ont été tombés en martyr et au moins 20 autres ont été blessés. Des sources israéliennes ont également fait état samedi d'une deuxième opération antiterroriste en réponse aux crimes sionistes à Jenin, dans le quartier de Silvan de la ville occupée de Rotz, suite à laquelle deux sionistes ont été blessés. Depuis que les jeunes Palestiniens en Cisjordanie se sont armés avec des armes à feu, les soldats israéliens sont constamment dans une détresse croissante de peur d'être la cible d'une attaque commando. Lors de la 17e session de la Conférence des conseils de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui s'est tenue dimanche 29 janvier à Alger, capitale algérienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que la cause palestinienne resterait la priorité des priorités de la nation musulmane. Il a appelé l'Organisation de la coopération islamique et l'Union des parlements des pays membres à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage de soutien politique et matériel au profit du peuple palestinien pour lui permettre de résister face aux crimes systématiques dont il est victime, notamment devant l'obstination du régime sioniste qui persiste dans ses graves violations à travers l'expansion de ses colonies ou encore sa dernière exaction au cours de laquelle il a profané la mosquée Al-Aqsa. Le président Tebboune a assuré que l'Algérie œuvrera avec les frères dans le monde musulman et avec tous les pays qui défendent le droit et la liberté dans le monde à l'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. Dimanche soir, les réunions de la 17e session de la conférence des parlements de l'ECI ont débuté dans la capitale algérienne avec la participation des chefs de parlement de plusieurs pays musulmans. Les réunions de deux jours porteront sur plusieurs questions relatives au monde musulman, dont la principale pivote autour de la cause palestinienne. Les forces de sécurité somaliennes ont tué 136 terroristes Shebab, dont trois commandants, lors d'une opération spéciale lancée samedi soir dans le sud de la Somalie, a annoncé dimanche un responsable gouvernemental. Le vice-ministre de l'information, Abdirahman Youssef Al-Adallah, a déclaré que les forces gouvernementales avaient conduit une opération conjointe dans une zone forestière abritant des terroristes près de la ville de Djanal. Une centaine de terroristes Shebab ont été blessés au cours d'une opération bien coordonnées. Le gouvernement s'est engagé à éradiquer les terroristes dans tout le pays, a déclaré Al-Adallah aux journalistes à Mogadiscio, la capitale somalienne. Il a indiqué que les trois commandants tués dans l'opération étaient en charge des attaques de guérilla et d'autres activités terroristes dans la région du Bas-Chabel. En France, la grève devrait être encore très suivie mardi 31 janvier dans les transports publics pour la deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites avec des perturbations à prévoir dans toute la France du TGV au TER et RER dans le métro parisien et à l'aéroport d'Orly. Fort du succès de leur première journée d'action du 19 janvier, les 8 principaux syndicats ont appelé à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier contre une réforme qu'ils qualifient d'injuste. La première journée d'action avait réuni dans la rue 1,12 million de manifestants. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions d'après les organisateurs. Ce jour-là, la grève avait notamment été très suivie dans les transports avec quasiment aucun train régional, peu de TGV, un métro tournant au ralenti à Paris et une grande banlieue très peu desservie. Mardi, les voyageurs doivent s'attendre à de nouvelles galères, avec notamment un trafic fortement perturbé sur les TGV. Seulement un train sur trois en moyenne sur les rails. Les prévisions sont globalement similaires à celles du jeudi 19 janvier. A résumé dimanche, la SNCF à l'AFP. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre US-Chine. L'armée américaine n'est pas prête. Avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche, le risque d'un conflit entre la Chine et Taïwan est très élevé. C'est ce qu'a averti le congressiste Michael McCall. Ce dernier a affirmé dimanche 29 janvier sur Fox News que l'armée américaine n'était pas prête à mener une guerre avec la Chine et qu'elle pourrait manquer de missiles de précision et de technologies de pointe en moins d'une semaine si la guerre éclatait. Nous devons nous préparer à cela, et cela pourrait arriver, je pense, tant que Biden est au pouvoir, postant une faiblesse comme il a fait avec l'Afghanistan, qui a conduit Poutine à envahir l'Ukraine. Les risques d'un conflit avec la Chine et Taïwan et l'Indo-Pacifique sont très élevés, a déclaré McCall. Vendredi 27 janvier, un général 4 étoiles de l'US Air Force, Mike Minyan, a envoyé aux officiers qu'il commande une note de service qui prédit que les États-Unis seraient en guerre avec la Chine dans 2 ans. Il a déclaré que les élections présidentielles à Taïwan et aux États-Unis en 2024 pourraient donner au président chinois Xi Jinping une opportunité. Le mémo signé est adressé à tous les commandants des escadres aériennes de l'Eshkon. McCall a également déclaré que les États-Unis pourraient manquer d'armes avancées en moins d'une semaine si les États-Unis lançaient une guerre contre la Chine. Selon une récente étude du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, les États-Unis seraient probablement à court de certaines de leurs munitions, y compris celles à longue portée et à guidage de précision, en moins d'une semaine en cas de conflit dans le détroit de Taïwan. La base industrielle de défense américaine n'est pas suffisamment préparée pour l'environnement de sécurité compétitif qui existe actuellement. Elle fonctionne actuellement à un rythme mieux adapté à un environnement en temps de paix, a estimé le groupe de réflexion dans son rapport. L'aide militaire américaine à l'Ukraine a épuisé les stocks d'armes du département américain de la défense et mis au grand jour les difficultés que la base industrielle américaine pourrait rencontrer pour fournir des munitions pour une guerre majeure. « Notre base de défense industrielle est brisée », a déploré McCollum. « J'ai signé il y a 3 ans toutes les ventes d'armes militaires à l'étranger. Ils doivent encore se rendre à Taïwan. Nous avons donc besoin de cette dissuasion. Mais si nous n'avons pas les armes, c'est tout aussi essentiel pour la dissuasion. » Washington est le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de Taïwan, malgré l'absence de relations diplomatiques formelles. Les ventes d'armes américaines à Taïwan s'avèrent une source de provocation pour les relations sino-américaines qui sont d'ailleurs détériorées ces dernières années. Les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de l'île de Taïwan se sont intensifiées à la suite d'une visite provocatrice en août de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Cela a provoqué des exercices militaires chinois à grande échelle autour du territoire insulaire ainsi qu'une déclaration du président américain Joe Biden pour défendre Taïwan. Sa visite a exaspéré la Chine, qui a la souveraineté sur le Taipei chinois. Pékin a déclaré publiquement qu'il pourrait le prendre par la force un jour, si nécessaire. Dans le cadre de la politique « une seule Chine », presque tous les pays du monde, y compris les États-Unis, reconnaissent la souveraineté de Pékin sur le Taipei chinois. Washington, cependant, est entré en contact direct avec le gouvernement sécessionniste de Taipei, en violation de sa propre politique déclarée. Les États-Unis fournissent également à Taipei des quantités massives d'armement.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. En effet, l'artillerie israélienne et Israël a lancé des frappes aériennes contre Gaza, contre la bande de Gaza assiégée, un jour après avoir frappé la Cisjordanie occupée et avoir tué au moins 10 personnes. En réponse, c'est la résistance palestinienne qui a lancé des roquettes sur les territoires occupés. De leur côté, les mouvements de résistance palestinienne, à savoir le djihad islamique et également le Hamas, ont annoncé qu'ils n'allaient pas rester les bras croisés et que des opérations de représailles étaient déjà en cours contre le régime sioniste et les territoires occupés. Dans cette émission, nous allons passer en revue ces informations, ces événements et les tensions qui sont palpables dans les territoires occupés, ces provocations et ces crimes de guerre commis par le régime sioniste sous silence des instances internationales. Mais nous allons évoquer ce sujet avec 2 analystes. Avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Israël a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza assiégée un jour après avoir tué au moins des Palestiniens en Cisjordanie occupée, incitant la résistance palestinienne à tirer des roquettes sur les territoires occupés en représailles. Le Centre d'information palestinien a déclaré que des avions de guerre israéliens ont attaqué des zones à l'ouest et au sud de Gaza, y compris des postes appartenant à la résistance palestinienne, jeudi soir et vendredi à l'aube. Les brigades Ezzedin Qassam, branche militaire du mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas, ont annoncé tôt vendredi matin que la défense aérienne de ce groupe avait repoussé les avions de combat de l'armée israélienne dans le ciel de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Sama, des missiles solaires des brigades Ezzedin Qassam ont intercepté les appareils israéliens dans le ciel de la bande de Gaza. Le site web israélien Hadashot Hamot a également confirmé que des missiles antiaériens avaient été tirés par la résistance palestinienne pour repousser les avions de combat de l'aviation israélienne qui frappaient des cibles dans la bande de Gaza. Sur 8 missiles tirés depuis l'enclave côtière sur Israël, 3 ont frappé Ashkelon, 3 Eshkol, un char Hanegev et l'autre Kfar Aza, a-t-on appris de la même source en allusion aux attaques de missiles et de roquettes de la résistance sur les colonies de peuplement avoisinant la bande de Gaza. Les combattants palestiniens ont lancé cette opération en riposte aux raids aériens des chasseurs bombardiers israéliens ayant touché à 15 reprises un centre appartenant aux forces de la résistance. Des sources de sécurité au Hamas ont également confirmé que les appareils israéliens avaient frappé à 15 reprises l'enclave palestinienne sans faire de blessés. L'aviation israélienne a également ciblé avec des missiles un site de la résistance au sud de la ville de Gaza ainsi que les alentours d'un point de surveillance à l'est au Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. Des sources locales ont également rapporté que la défense antiaérienne des groupes de résistance palestinienne avait fait face au nord de Gaza à des appareils israéliens. La résistance a tiré 2 missiles solaires vers les avions de chasse israéliens dans le ciel de Khan Younes, précise la source.
Je dis bonjour à nos deux invités, deux experts des questions internationales, l'un qui est avec nous depuis Bruxelles et l'autre qui est avec nous depuis Vaucluse, depuis la France. Luc Michel, géopoliticien, est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour à votre équipe et à vous-même et à Monsieur Cornu, bien entendu, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Merci. Voilà, vous l'avez dit, Bernard Cornu est notre deuxième invité qui est avec nous en direct depuis la France, Vaucluse. Monsieur Michel, si vous voulez bien, on commence avec vous. Dans un premier temps, avant de rentrer dans les détails du sujet, à votre avis, quels sont les objectifs de ces provocations, de ces attaques contre le Gaza, contre la Cisjordanie occupée, ces jeunes qui sont morts durant ces combats? À quoi cherche en fait, qu'est-ce que cherche le régime sioniste à travers ces provocations?
Mais écoutez, le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou a vu la constitution d'un gouvernement d'extrême droite. Un dirigeant du Hamas, il y a quelques semaines, a dit que justement, c'était un gouvernement néo-fasciste. Ce gouvernement s'est constitué avec la droite israélienne, la droite religieuse, qui participait déjà à la précédente majorité anti-Netanyahou. Il est fondamental pour le Likoud, donc, de garder la main sur ces partis politiques extrémistes et donc qui multiplient les démonstrations, les provocations. On a dit fort justement que c'était un test pour le gouvernement Netanyahou, puisqu'il doit prouver évidemment qu'il est un gouvernement extrémiste capable de mener la guerre contre les Palestiniens. Les provocations israéliennes, elles ont conduit à deux phénomènes. D'une part, on est en face d'une véritable guerre qui mobilise les chasseurs israéliens et la DCA palestinienne. D'autre part, le combat qui était celui des sionistes contre les Palestiniens, il est en train de déboucher sur une guerre ethnique, malheureusement, entre Juifs et Palestiniens. C'est cela qu'il faut retenir. C'est Netanyahou, malgré toute la propagande qui est développée dans les médias occidentaux, c'est Netanyahou qui est le seul responsable, avec le ministre de la Sécurité israélienne, Ben Gvir. Ce sont les deux responsables de la situation actuelle.
Merci. Restez en ligne, Luc Michel. Bernard Cornu, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, dans un premier temps, quels sont les objectifs de ces provocations, ces crimes de guerre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Luc Michel?
C'est une guerre d'occupation qui continue et de bombardements incessants, et avec évidemment des ripostes de la résistance palestinienne qui a pas beaucoup de moyens et qui est prête parfois à sacrifier des gens pour pouvoir ne pas laisser sans réaction, hélas, les morts qu'il y a eu il y a quelques jours à Jénine, dans le camp de Jénine. Voilà, donc je remarque que le président Biden a regretté, s'est exprimé sur l'attentat qui a eu hier en riposte il ne s'était pas exprimé sur les 9 ou 10 morts qu'il y a eu à Jénine ces jours-ci. Donc tant que les Nations Unies et l'Europe n'interviendront pas pour faire cesser l'impunité de l'État israélien et menacer d'intervenir par usage de la force et de tous les moyens selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, comme il devrait faire depuis longtemps, cette guerre continuera, il y aura toujours des morts, des blessés, des destructions. Et donc sans doute, l'État israélien devra être engagé à payer des réparations pour toutes ces destructions et toutes ces vies humaines perdues.
Merci, merci Bernard Cornu. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Luc Michel, en ce qui concerne les opérations de représailles des mouvements de résistance palestinienne, à savoir le djihad islamique et le Hamas, il y a une opération baptisée Quds qui a été en fait pour, comme le disaient les autorités de ces mouvements de résistance, pour venger les sangs des martyrs écoulés par ces attaques et pour, par ces crimes de guerre israéliens. Et comment interprétez-vous ces représailles des mouvements de résistance palestinienne?
Mais écoutez, c'est la guerre et aujourd'hui, la participation des Palestiniens à l'axe de la résistance font qu'ils sont dotés d'armes performantes, des drones et des missiles et qu'ils sont capables de résister aux Israéliens. Ce que veulent les Israéliens, c'est empêcher un État palestinien et c'est nettoyer ethniquement la Palestine. C'est le résultat des accords d'Abraham. Bien loin d'avoir amené la paix, Donald Trump a imposé les accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a déclenché un processus de captation du territoire de la Palestine et de Jérusalem par les Israéliens. C'est cela qu'il faut retenir dedans, évidemment. Et aujourd'hui, des Palestiniens qui sont désespérés, qui n'ont plus rien à perdre, ne sont plus décidés à accepter la domination israélienne.
Et Luc Michel, comment interprétez-vous cette politique de bouclage d'Israël qui empêche en fait la plupart des habitants de Gaza de se rendre en Cisjordanie et donc en fait cette bande de Gaza qui est assiégée depuis des années?
C'est une politique évidemment de terreur pour les Palestiniens et c'est une politique qui est contraire aux droits de l'homme. Il faut retenir également que les Israéliens n'hésitent pas puisqu'ils tirent à balles de guerre réelles sur des enfants, c'est l'intifada. Et par exemple, les militants qui sont pris dedans, dans des actes israéliens, Israël pratique une politique de persécution des familles qui a été mise au point sous le troisième règne Hitler. C'est ça qu'il faut savoir. On détruit les maisons des familles palestiniennes, on viole leurs biens, on arrête leurs parents, etc. C'est une politique évidemment scandaleuse, totalement contraire aux droits de l'homme. Mais on ne parle pas de ça ici, en Occident, puisque le discours médiatique, c'est de présenter les Israéliens comme des victimes. Il suffit d'écouter la presse française depuis 48 heures.
Justement, Bernard Cornu, Luc Michel vient de parler de cette campagne médiatique. C'est pas seulement dans le sujet israélien et palestino-israélien, c'est surtout sur tous les dossiers de la région, en fait, que ce soit en Syrie, en Ukraine, Russie, etc. Comment peut-on interpréter cette campagne médiatique, mais surtout ce silence des instances internationales, de l'ONU, des instances qui devraient réagir dans ces cas, mais qui sont muettes, en fait?
Il y a le problème bien connu du sentiment de culpabilité des Européens et bien sûr des Allemands, mais beaucoup de pays ont collaboré avec les Allemands pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale et l'occupation des territoires européens. Donc il y a ce sentiment de culpabilité face au génocide qu'ont subi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à sa fin. Et donc ceci est exploité par les mouvements sionistes pour reprocher à des dirigeants politiques qu'ils font des remarques sur cette situation de guerre et d'occupation pour leur reprocher qu'ils n'ont pas à entendre de critiques de la part de gens qui ont été des bourreaux du peuple juif. Donc ceci est exploité massivement pour contrer, à tel point que bien qu'il y ait un mouvement antisioniste assez fort dans tous les pays, y compris en France, y compris aux États-Unis, dans les universités, l'attaque classique contre ces mouvements et de dire qu'ils sont antisémites, ce qui est complètement faux, puisque d'ailleurs il y a de nombreux juifs antisionistes, des historiens, des militants qui veulent aussi que cette attitude criminelle de l'État israélien occupant, qui fait souffrir durablement, enfin très durement, l'ensemble des communautés palestiniennes dans les territoires occupés, mais aussi en Israël même, puisqu'on a appelé ceci une politique d'apartheid, il n'y a pas de réaction, et pas assez de réaction, alors que le seul moyen, c'est d'appliquer le droit international fermement, comme cela a été appliqué ailleurs, donc à part une résolution au chapitre 7 des Nations Unies, et avec la menace du recours à la force pour faire cesser l'occupation des territoires palestiniens par l'armée israélienne.
Merci pour vos explications, Bernard Cornu. Alors, Luc Michel, on s'attendait, hein, avec l'arrivée de Benjamin Netanyahou au sein du régime sioniste avec son nouveau cabinet, à de l'extrémisme, à plus d'attaques, à plus de crimes de guerre. Mais est-ce qu'on s'attendait à autant d'atrocités, en fait, en si peu de temps? Et j'aimerais aussi avoir votre réaction en ce qui concerne cette campagne médiatique dont vous en avez parlé un tout petit peu.
Mais tout d'abord, la haine, elle était prévisible, puisque ce sont les plus radicaux des Israéliens, la droite religieuse, des gens comme Lieberman, Ben Gvir, qui sont des criminels en puissance. Et le Likoud aujourd'hui, il est hégémonique sur la scène israélienne. On parle de likoudisation, c'est-à-dire ce sont les sionistes extrémistes. D'où vient le Likoud? Le Likoud vient de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste des années 30, celui de Jabotinsky. C'était les fascistes sionistes, admirateurs de Mussolini et qui ont collaboré avec des nazis. Évidemment, ils étaient marginaux dans les années 30, 40 et 50, mais aujourd'hui, ils sont hégémoniques, aussi bien en Israël que dans les diasporas israéliennes. C'est cela qu'il faut retenir, évidemment. Lorsque Netanyahou prend la parole, il prend la parole derrière d'immenses posters de Jabotinsky. La théorie de Jabotinsky, c'est d'une part le grand Israël du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire en annexant des territoires égyptiens, palestiniens et syriens. Mais c'est aussi le théoricien des murailles d'acier d'Israël, c'est-à-dire que le sionisme repose sur la force militaire de ses armées. Ce n'est pas étonnant qu'avec une telle idéologie, qui s'est implantée également en France et aux États-Unis, qu'évidemment on débouchera. Maintenant, la question des manipulations médiatiques. Il faut retenir la présence de milliardaires israéliens, notamment dans la presse française. Par exemple, vous avez le patron de BFM TV ou d'I24, c'est un milliardaire israélien. Et évidemment, ils imposent le tempo à la presse française, en sachant que les autres, évidemment. Il y a des représentants du Likoud. Meyer Habib, par exemple, qui est un député français, qui a la double nationalité, c'est le représentant officiel du Likoud au gouvernement français, au Parlement français. C'est cela qu'il faut retenir. Donc il y a une influence de ces gens. Il ne s'agit pas d'un vote, d'ailleurs, comme on le dit, d'un lobby pro-juif, parce que ça n'existe pas. C'est un lobby pro-israélien, le CRIF en France ou l'AIPAC aux États-Unis. La puissance de l'AIPAC aux États-Unis, elle fait que c'est la principale organisation pour récolter des fonds électoraux. Les juifs votent démocrates ou républicains, mais l'AIPAC finance tout le monde, depuis les élections locales des shérifs et des juges de paix jusqu'à la campagne présidentielle. Ça explique la puissance de ce lobby.
Merci pour vos explications. Luc Michel, on pourrait également évoquer en fait l'axe de la résistance, tous les pays qui sont membres de l'axe de la résistance et leur réaction qui pourrait parvenir dans les jours à venir, n'est-ce pas?
Écoutez, le fait que maintenant l'axe de la résistance est présent en Palestine et qu'il a réconcilié l'OLP et le Hamas qui étaient divisés suite à des manœuvres israéliennes depuis presque deux décennies. C'est important. Il faut également souligner que derrière l'axe de la résistance, il y a aujourd'hui la Russie. La bienveillance de la Russie vis-à-vis d'Israël, elle n'existe plus. Suite à la guerre en Syrie, mais aussi à la position pro-ukrainienne du gouvernement de Netanyahou.
Merci. Et Bernard Cornu, vous, à votre avis, quelle serait la réaction de l'axe de la résistance, les pays membres de cet axe de la résistance qui ont déjà fait leurs preuves à travers les diverses épreuves dont a passé cette région avec le régime sioniste. Cette fois, quelle sera cette réaction?
Je vais juste un peu compléter. Le père de Benjamin Netanyahou, le premier ministre actuel, donc son père était secrétaire de Jabotinsky, qui est donc ce chef du mouvement d'extrême droite sioniste des années 30. Et toute cette influence s'est effectivement étendue dans tous les mouvements sionistes d'Europe. Et il y a beaucoup effectivement de personnes influentes dans les médias, dans la politique, même au Parti Socialiste par exemple, qui fait qu'il est très difficile à des personnes compétentes dans ces systèmes, quand ils sont anti-sionistes, de promouvoir la légitimité de la lutte palestinienne, de la revendication de créer un État indépendant conformément à la résolution de 1947. Donc ça, c'est l'infiltration dans les politique et médiatique français est bien connu. Et donc, c'est ceci qui permet à ce milieu d'avoir beaucoup d'influence sur le politique interne d'État européen. Pour ce qui est de la résistance, effectivement, la résistance palestinienne a besoin d'être soutenue. Elle est soutenue au Moyen-Orient, évidemment, car le Hezbollah, elle est soutenue par l'Iran. Et elle est soutenue par de nombreux mouvements associatifs en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens et même aux États-Unis. Elle a la peine à ces nouveaux gouvernements élus démocratiques.
Je pense que le son a été coupé avec Bernard Cornu. Luc Michel, en ce qui concerne les évolutions à venir, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines à venir, à votre avis?
Je crois qu'il faut s'attendre à une radicalisation. Ce soir, il y a une réunion du cabinet de sécurité Netanyahou après le Shabbat. On est bien certain qu'il faut prendre des mesures radicales. Ils ont déjà décidé de détruire la maison des parents des Palestiniens impliqués, évidemment, dans les actions de ces derniers jours. Ce qu'il faut retenir aussi, suite à ce qu'a dit M. Cornu, c'est que dès que vous soutenez les Palestiniens, vous êtes catalogué comme antisémite. Moi, depuis mon adolescence, dans les années 70, je soutiens la cause palestinienne. Ça m'a valu la réputation d'être un antisémite, ce que je ne suis pas. Au contraire, il y a en 1992, l'antisémitisme World Report, qui est édité à Jérusalem par les sionistes, qui a déclaré que mon parti, le PCN, n'est pas un parti d'extrême droite et n'est pas un parti antisémite mais antisioniste. Ça ne m'empêche pas de subir ce climat de terreur dans des milliers de publications, notamment sur Wikipédia, de fausses biographies. Je suis catalogué d'antisémite. C'est cela, évidemment, qui fait la toute-puissance des Likoudniks, en particulier en France et en Belgique.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Je pense que la connexion a été coupée avec Bernard Cornu. Bernard Cornu, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, je pense que la connexion a été coupée. On a 2 minutes devant nous. Luc Michel, le mot de la fin est à vous.
Bah, écoutez, aujourd'hui, la cause palestinienne était en recul depuis les 2 dernières décennies. Moi, quand j'étais jeune, donc il y a 50 ans, il y avait des grandes manifestations pro-palestiniennes à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Berlin. Depuis 2 décennies, c'était fini. Aujourd'hui, il y a de nouveau l'opinion publique mondiale qui est avec les Palestiniens. Ils ont un soutien international. Et évidemment, les gens comme Netanyahou, ils apparaissent pour ce qu'ils sont. Un gouvernement raciste, d'extrême droite, même néo-fasciste. Évidemment, tout cela fait que les Palestiniens, aujourd'hui, ils sont encore un espoir d'emporter la victoire.
Merci infiniment. Alors, Luc Michel, géopoliticien, Bernard Cornu, politologue, était avec nous pour ce débat. Nous avons révisé les évolutions en Palestine occupée, mais surtout les atrocités commises par le régime sioniste à Jenin, mais aussi dans la bande de Gaza assiégée. Merci à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Miniature iranienne, un art vieux comme le monde. Les peintures rupestres découvertes dans la grotte de Doché, dans la province du Lorestan, vieilles d'environ 10 000 ans, seraient probablement les œuvres picturales les plus anciennes découvertes en Iran. Pendant la période pré-islamique, les œuvres picturales décoraient souvent les murs des grands monuments royaux, depuis les Achéménides jusqu'aux Sassanides, en passant par la courte domination hellénique avec le règne des Séleucides et des Arsacides. Après l'islamisation de l'Iran à partir du 7e siècle, l'empire perse sassanide tomba aux mains des Arabes musulmans en 641. Le territoire de l'Iran actuel fut alors incorporé au califat, situé d'abord à Médine, puis à Damas, les Omeyyades, et à Bagdad, les Abbasides. Après la conquête arabe, les arts et la littérature connurent une période de recommencement et de restructuration de 3 siècles environ, sous l'influence du choc assez brutal de différentes cultures. Cependant, les influences culturelles furent réciproques. Les califes Omeyyades de Damas adoptèrent les modes de vie de la cour sassanide et les Abbasides de Bagdad, encore plus influencés par la culture perse, s'inspirèrent du luxe perse. Ces échanges culturels entre l'islam et la Perse avaient déjà préparé l'adaptation des arts iraniens à l'expression des croyances religieuses des Iraniens musulmans. En effet, dès le 9e siècle, des dynasties locales s'émancipèrent de la tutelle abbasside. Les Samanides, les Ghaznavides d'origine turque et les Buyides restaurèrent l'autonomie des Perses par rapport au califat arabe. Les Samanides, les Ghaznavides d'origine turque et les Buyides restaurèrent l'autonomie des Perses par rapport au califat arabe. À cela s'ajouta la résurrection du talent perse. La philosophie, la médecine, les mathématiques et les arts se développèrent. De nombreuses œuvres écrites en grec, dont celles d'Aristote, de Platon, d'Euclide et de Galien, furent traduites dans la langue du Coran, l'arabe. Ce mouvement de traduction, qui permettait la diffusion du savoir, a rendu également un grand service aux arts picturaux, car à cette période, la fonction la plus importante de la peinture était l'illustration. Bagdad, la cité des mille et une nuits, située à la frontière du monde iranien, se développait comme capitale des sciences et des arts, où l'illustration des œuvres écrites devint vite un métier à part entière. La miniature iranienne naquit pour illustrer d'abord des ouvrages scientifiques et techniques, avant de se spécialiser dans l'illustration des œuvres littéraires. La miniature illustrait le texte littéraire, le rendait plus agréable et plus facile à comprendre. Tout au long de cette première période, les miniaturistes persans qui travaillaient à Bagdad étaient plutôt influencés par l'école picturale de Byzance, tandis que les techniques perses de l'époque des Sassanides étaient encore appliquées dans ce que l'on peut appeler l'école de miniature internationale de Bagdad. Dans les portraits de cette période, les individus portent souvent des habits sobres qui rappellent les personnages sassanides. Comme dans l'art byzantin, il y a parfois des personnages ailés. Les feuillages représentent schématiquement la nature, tandis que les fonds de paysage sont simples et sobres, sans couleur, comme si les sujets peints étaient suspendus dans le vide. L'aspect particulier de ces miniatures résidait dans le fait qu'elles absorbaient les complexités et qu'elles réussissaient étonnamment à traiter des questions métapicturales telles que la nature de l'art. Au XIe siècle, sous les Seljoukides, une nouvelle école de peinture naquit en Iran. Si l'école de Bagdad était trop dominée par la peinture byzantine, l'école seljoukide était bel et bien fondée sur les traditions persanes. À cette époque, le livre d'images de Mani devint de nouveau la source d'inspiration des miniaturistes persans. Mani, 216-277, fondateur de la gnostique manichéenne, surnommé parfois Christ d'Orient et Bouddha d'Occident, est moins prophète que peintre, et son livre d'images, l'Arjang, bien que disparu, représente dans l'imaginaire iranien l'apogée de l'art pictural. La miniature de l'époque seljoukide conserve la sobriété du style bagdadien, mais subit également l'influence de la peinture pré-islamique, sassanide, et du monde chinois. Dans ces miniatures, des auréoles apparurent au-dessus de la tête, proportionnellement plus grandes que le corps de certains personnages. Vers la fin du XIIIe siècle, l'école d'art de Tabriz fut fondée. Pour la première fois, des ateliers spécialisés dans l'illustration et l'enluminure des livres furent établis dans cette ville. Les développements artistiques des débuts de l'école de Tabriz étaient caractérisés par la combinaison des traits chinois avec les styles arméniens et byzantins. Cette influence peut s'expliquer en partie par la situation géographique de Tabriz, proche des frontières arméniennes. Au XIIIe et XIVe siècle, sous les îles Hanides mongoles, grâce à la sagesse des gouverneurs locaux qui avaient su protéger la ville pendant l'invasion mongole, la vie culturelle connaît un essor nouveau à Shiraz. Les illustrations de cette période sont parmi les chefs-d'œuvre de la miniature persane. Tout est parfait, clair, à la fois dans la composition et dans les détails. L'école de Shiraz allait influencer les peintres de tout l'Iran. Et à la fin du XVe siècle, c'est elle qui produit les plus belles miniatures. Dans la première moitié du XVe siècle, une école artistique s'établit à Herat et accueillit les plus grands noms des écoles de Tabriz et de Shiraz. Les premières miniatures de cette école, nouvellement ouverte, reproduisaient encore avec beaucoup de minutie les détails architecturaux et les paysages naturels. Les éléments chinois et byzantins commençaient à disparaître progressivement, tandis que les portraits devenaient plus naturels et vivants. La miniature persane devint, à partir de ce moment-là, plus poétique et plus imaginative. Les œuvres de cette période sont marquées par l'usage d'une palette de couleurs plus vive. Les illustrations ne se plaçaient plus à côté du texte, car des pages entières étaient désormais consacrées à la peinture. Au XVIe siècle, avec l'apparition d'Iskandar Sultan, l'école d'art de Shiraz vécut un nouvel âge d'or. Dans leur nouveau atelier, les artistes créèrent des chefs-d'œuvre très appréciés de la cour timouride. Les œuvres des maîtres de Shiraz se personnalisent avec l'apparition d'une symétrie plus ou moins extravagante et d'un contraste des couleurs entre les sujets principaux et le fond des tableaux. Après la mort de Tamerlan, le plus jeune de ses quatre fils, Shahrokh, établit sa capitale à Herat. Il chargea son fils cadet, Baysunrur, grand bibliophile, d'étendre et de développer la bibliothèque royale. Baysunrur devint ainsi le mécène des artistes peintres d'Herat et leur demanda un grand nombre d'illustrations pour les ouvrages de sa bibliothèque. Un des peintres les plus brillants de l'école de Herat fut Kamal ed-Din Behzad. Sous son influence, l'école de Herat évolua vers l'usage des couleurs vives et transparentes, l'abondance des décorations et la disparition quasi totale des éléments chinois. D'autre part, les originalités de l'école de Shiraz s'accentuèrent dans les œuvres des maîtres de Herat et furent à l'origine des plus beaux chefs-d'œuvre de la miniature persane. Muhammad Siyah Qalam et Tuhollah Mirak étaient deux des grands maîtres de l'école de Herat avant son déclin vers la fin du XVIe siècle. Mais Behzad reste sans aucun doute le grand maître incontesté de la miniature persane de tous les temps. C'est dans ses tableaux que l'on voit pour la première fois un vif intérêt pour les portraits et les détails prosaïques de la vie quotidienne. Avec lui, la miniature sortit pour la première fois du cadre d'illustration des ouvrages écrits pour devenir de véritables tableaux de peinture.
Thank you.